9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Dans l'intimité de Toutankhamon, ce livre paru en février chez First Edition, Florence Quentin, bonjour.
Bonjour.
Vous qui êtes en studio avec Dominique Farou, égyptologue et conseiller scientifique de cette exposition, Le Trésor du Pharaon. On a hâte. Bonjour Dominique Farou. Comme vous avez dû vous régaler vous-même, comme émerveillé que vous étiez sans doute par ces objets, il le fut aussi Howard Carter quand il découvrit ce tombeau du pharaon, du jeune souverain. On est en 1922 et il fait une découverte qui va faire basculer le monde de l'égyptologie, Florence Quentin.
Oui, il y a des années qu'il cherche Howard Carter, l'obsession un peu de rencontrer, de retrouver ce pharaon qui a un peu disparu, qui a été effacé des listes royales, contre l'avis de ses collègues de l'époque. Il sait, il est obsédé un peu par cette recherche. Et il va, le 4 novembre 1922, il va découvrir l'escalier qui mène à l'entrée de cette tombe. Et justement, il y a aussi cette légende, on va dire, il y a la légende de la malédiction, mais il y a des légendes plus jolies qui font que... Moi, j'ai eu la chance de rencontrer en 93 Hussein Abdel Rassoul, qui était un vieux monsieur à l'époque, et qui était le jeune porteur d'eau sur le chantier de fouilles de Howard Carter. Et c'est lui qui, d'une manière fortuite, a enfoncé sa jarre d'eau dans le sable et qui a mis au jour la première marche de cet escalier.
Incroyable, une marche qui menait au tombeau de Toutankhamon, qui a été retrouvé absolument intact, Dominique Farou. Si on vous parle de cette découverte, c'est qu'on est dans le cadre d'un centenaire, donc 1922-2022, mais la tournée mondiale exceptionnelle de ces objets, qui est partie des États-Unis et qui va faire le tour du monde, nous permet justement de célébrer ce centenaire.
Alors je dirais même 1922-2022, parce qu'on oublie toujours que 1822, c'est la date officielle de naissance de l'égyptologie.
Avec Champollion ?
Avec la lettre à Monsieur Dacier par Champollion,
qui,
contrairement à ce que tout le monde croit, n'est pas le moment où Champollion a déchiffré les hiéroglyphes, mais le moment où il a compris qu'il y avait des signes phonétiques qui existaient depuis le début de l'histoire égyptienne et que grâce à ça, il allait pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Ah oui, mais ça fait en tout cas 200 ans qu'on est porté par cette fascination égyptienne.
C'est extraordinaire, 100 ans pile après, Carter trouve Toutankhamon, et encore 100 ans après, bon bien sûr là ce sera calculé, le grand musée du Caire va ouvrir.
Oui, absolument, donc, et avant l'ouverture de ce grand musée du Caire dans lequel vous retrouvez tous ces objets, eh bien vous irez à la grande halle de la Villette, 150 objets inédits qui témoignent justement de cette traversée du pharaon de la vie à la mort, car c'est exactement ce qu'on trouve aussi à l'intérieur de ce tombeau. Ce sont toutes ces salles qui permettent de retracer l'itinéraire, Florence Quentin, d'un pharaon, d'un jeune souverain donc, quand il quitte la Terre.
Oui, c'est ça, c'est une sorte de voyage dans l'au-delà, une progression. Il y a ces salles, c'est une petite tombe qui a été finalement bâtie assez à la hâte parce qu'il est mort subitement.
Très jeune.
Et très jeune, entre 17 et 19 ans,
on verra les conditions.
Et puis, c'est une sorte de vaisseau d'éternité. On amène sa momie, il y a des rituels sur cette momie et puis on va finalement l'inhumer dans un ensemble donc de chapelles, sarcophages, cercueils, tous plus somptueux les uns que les autres. Effectivement, on l'accompagne, tous les objets témoignent cet accompagnement du défunt dans l'au-delà, qui est souvent confronté d'ailleurs à des dangers, à des ennemis qui vont essayer d'entraver son voyage dans l'au-delà.
Et on va voir comment ces objets justement le protègent.
Oui,
ce tombeau est dans la vallée des Rois, dans la rive ouest du Nil, Dominique Farou, il est toujours là, ce tombeau, évidemment, avec toutes ces inscriptions, ces peintures. On en a simplement exhumé ces objets, ils étaient plusieurs milliers.
Oui, alors en plus, c'est un tombeau totalement inhabituel. C'est ce qui a fait que... un des éléments qui ont fait que ce tombeau a échappé aux pilleurs à la fin du Nouvel Empire.
Oui.
Parce que c'est un tombeau qui a la tête d'un petit appartement parisien.
Quoi. Incroyable.
Et dedans, on y a mis 5300 objets.
5300 objets. Incroyable.
Presque 5400.
Ouais. Et donc, il a fallu évidemment des années pour les récupérer, tous ces objets.
Mais surtout, il n'était pas au bon endroit. Il n'était pas la bonne... heureusement pour Toutankhamon, c'est-à-dire qu'on l'a enterré dans un tombeau qui n'était... Enfin, le monument lui-même, qui n'était pas un tombeau royal.
Oui.
Et donc, et en plus, on a oublié son nom parce qu'il avait été effacé.
Oui.
Et donc... c'est une belle histoire.
Heureusement
celui
pour
qu'on
nous,
a voulu faire
intact.
Disparaître est celui qui est aujourd'hui le plus connu dans le monde.
3500 ans après sa mort dans la vallée des Rois, dans l'intimité de Toutankhamon, avec ses trésors exposés à la Villette jusqu'au 15 décembre. On en parle jusqu'à 11h sur Europe 1.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Vous pourriez donc découvrir sous la grande halle de la Villette les trésors de Toutankhamon, des trésors de retour à Paris pour la première fois depuis 50 ans.
Ah oui, je vous sens passionnée Julie, vous qui étudiante avez vu cette exposition en 67 comme nombre d'entre vous. Vous pouvez nous appeler pour en parler de ces souvenirs, de cette émotion. Florence Quentin est avec nous, égyptologue, essayiste et auteur de Dans l'intimité de Toutankhamon chez First Edition, ainsi que Dominique Farou, égyptologue et conseiller scientifique de l'exposition Le Trésor du Pharaon. On a donc dans la Vallée des Rois ce tombeau que les visiteurs peuvent encore apprécier avec la momie de Toutankhamon qui est restée donc en Égypte. Oui. Dans son sarcophage aujourd'hui.
Oui, c'est une des rares qui est in situ. La plupart sont au musée du Caire ou dans des musées donc, en Europe.
La momie de Ramsès II est au Caire.
Voilà, elle est au Caire. Oui. Les momies des grands rois, enfin celles qu'on a découvertes.
On en a au Louvre des momies aussi.
Oui, on en a un peu partout dans les musées. Et puis on en avait dans tous les cabinets de curiosité de la Renaissance. Il fallait avoir sa momie. C'était décoratif. Ah là là. On prenait aussi de la poudre de momie pour se fortifier, comme aphrodisiaque. Enfin, les momies ont eu.
Comme vie éternelle.
Voilà, les momies ont eu un sacré destin. Et celle-ci, qui est d'ailleurs une momie assez touchante. Chante, hein, parce qu'on descend dans la tombe et elle est sous un linceul blanc, dans un caisson de verre. Mmh. Et on la voit quand on arrive. Il est très touchant parce que sa momie a été mal momifiée. Et il est carbonisé, alors il est tout noir et il est tout frêle. Vous voyez, donc on est touché par ce roi, je ne sais pas si on peut dire petit roi, ce jeune roi en tout cas. Mais en tout cas, il est dans sa tombe, il est resté.
C'est incroyable parce que 3500 ans plus tard, on peut avoir un contact avec cette Égypte ancienne par l'intermédiaire de cette momie. Il faut dire dans quelles conditions elle a été découverte par Howard Carter notamment. Cette momie était déjà en mauvais état en 1922. Il l'a découpée en petit morceau, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Enfin, c'est pas Carter, c'est Lucas qui était le meilleur restaurateur du monde de son époque et qui avait une équipe, il avait les trois meilleurs chimistes et restaurateurs qui existaient à l'époque dans le monde.
D'accord.
Il a pris les meilleurs des meilleurs. C'est même remarquable de voir qu'en 1922 on ait restauré les objets in situ. On faisait une première restauration et consolidation dans la tombe et ensuite on allait dans la tombe d'à côté où ils avaient mis un vrai laboratoire chez Seti. Et ça a été fait vraiment de façon superbe. Le problème, c'est que les onguents étaient, j'allais dire, pétrifiés. Enfin, vous voyez, avaient vraiment durci. Le corps était pris dans les onguents. Et Lucas a été obligé donc de couper tout ça avec une lame chauffée. Enfin,
voilà, et de décapiter.
Il a été obligé de le couper en morceaux pour pouvoir le fouiller, malheureusement.
Ça, c'est pas sacrilège?
Je veux dire, vous savez, l'archéologie est sacrilège dans ce cas-là. Tout ce qu'on fait...
Oui, forcément, pour accéder aux origines. Mais je veux dire, c'est violent, décapiter un pharaon, alors que c'est...
Il l'a pas décapité comme ça. Puis bon, vous savez, de la momie, quand on fouille, on en bouffe, quoi. Donc on a mal au ventre.
Parce qu'il y a des émanations, on imagine.
Depuis quelques années, je fouille dans une carrière, donc j'ai découvert qu'on pouvait fouiller sans avoir la diarrhée pendant presque toute la fouille.
Vous voyez. Parce que c'est ça.
Parce que quand vous fouillez des tombes et des poubelles, vous êtes malade pendant que vous fouillez.
Parce que vous êtes dans des émanations d'un autre temps. Quoi.
Oui. Enfin, c'est ça, quoi. Donc, bon.
Mais vous aviez une question là-dessus, Julie, justement, sur ce rapport justement aux sépultures.
Mais oui, ça m'avait choqué, moi, à l'époque, parce que je me disais qu'on avait violé cette tombe et que tout avait été placé là pour y rester pour l'éternité, ces objets.
Alors, en même temps, Toutankhamon, il avait été oblitéré, oublié, effacé, annihilé, et Carter l'a ressuscité. Et puis, il l'a fait avec des quand même,
c'était un sauvage, mais bon.
Non, mais parce qu'il y a la façon dont on se tient quand on fait ce genre de choses.
Oui, et Carter était un passionné. Hein, il a préservé, je pense, au contraire, il a préservé ce trésor, il l'a fait connaître
au monde entier.
Et comme dit Dominique, ça a été une revanche extraordinaire pour le roi.
Oui, pourquoi était-il effacé justement des mémoires
Parce que son père était sans doute Akhenaton, qui était jugé hérétique. Il avait instauré le culte du dieu unique, du disque solaire Aton. Et toute cette famille était considérée comme hérétique, renégat.
Sa mère Nefertiti
Peut-être, si c'est elle. Voilà. En tout cas, cette famille était considérée comme hérétique. Il a fallu effacer tous les gens de cette période. Et lui, il n'a pas fait exception. Donc, on l'a effacé des listes royales. Il est tombé dans l'oubli. Et c'est quand même grâce à Carter et à son équipe qu'aujourd'hui... Alors, certes, on désacralise les objets qui accompagnaient, etc. Mais on connaît Toutankhamon. On connaît mieux l'époque grâce aux objets. C'est ce que
je traite dans le livre. Absolument.
Voilà, on connaît mieux l'époque. Peut-être un petit peu de la personnalité de Toutankhamon, si je puis dire. Parce que les rois, en général, on ne connaît pas leur personnalité. On n'a que des documents de propagande royale. Mmh. Et finalement, Toutankhamon, avec ses petites choses, on pourrait peut-être dresser un portrait chinois de lui.
Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de faire. Portrait égyptien, chino-égyptien. Avec Florence Quentin dans l'intimité de Toutankhamon. Je vous donne la parole juste après la pause, Dominique Farou, parce que j'aimerais qu'on étudie avec vous un peu plus précisément justement cette momie et ce qu'elle peut nous dire, par exemple, des circonstances de la mort de Toutankhamon, jeune roi disparu entre 17 et 20 ans. Je vous signale que pour accompagner cette exposition à la Grande Halle de la Villette, vous découvrez en kiosque un Beaux-Arts magazine hors série très complet sur les derniers mystères du pharaon. C'est aussi un beau travail de documentation. À tout de suite sur Europe 1.
Le tour de la question sur la fascination qu'on a tous pour Toutankhamon.
Toutankhamon pour l'Égypte, les secrets de l'Égypte ancienne, du monde des pharaons. Je vous sens tellement captif, énormément de réactions sur les réseaux sociaux, sur cette heure qui vous emporte, qui vous transporte, et on est très heureux de vous l'offrir avec Florence Quentin. Quentin qui publie chez First Edition Dans l'intimité de Toutankhamon. Dominique Farou, vous êtes-vous conseiller scientifique de l'exposition Le trésor du pharaon, qu'on découvrira jusqu'au mois de septembre sous la grande halle de la Villette. Parlons de la correspondance entre cette Égypte ancienne et nos temps très modernes, très contemporains. Car avec nos technologies d'aujourd'hui, on peut peut-être en savoir plus aussi sur les circonstances de la mort de Toutankhamon. La momie, elle a été analysée en 1968 pour la première fois, et on a mis à jour...
Elle a été analysée déjà en 1923.
Oui, c'est ça, quand elle est...
Ouais, et sur les circonstances de la mort en 1968, on commence à émettre des hypothèses.
Oui, alors ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes avec Toutankhamon, et on a commencé à fantasmer avant de voir les choses. Mmh. Donc on est parti dans des délires où il aurait été assassiné. Il y a des choses où on se dit, mais pour l'assassiner, il faudrait que ça intéresse quelqu'un.
Oui.
Et en Égypte, on avait les Hittites aux portes, vous voyez. Enfin, c'était une période très, très tendue.
Oui.
La mort de Toutankhamon n'a vraiment pas arrangé les Égyptiens, quand même.
Ah bon?
Donc, personne n'avait intérêt à le faire mourir, et surtout pas au Remeb. Parce qu'au Remeb, il était général en chef des armées. Mmh. Au moment de la mort de Toutankhamon, d'ailleurs, il est probablement à la frontière hittite pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Mmh. Vous comprenez, c'est un moment de faiblesse pour le pays. La mort d'un pharaon sans héritier.
Ouais, compliqué. Oui, parce qu'ils avaient eu deux petits-enfants mort-nés. Et probablement, oui. Florence Quentin, oui, qu'on retrouve d'ailleurs dans le tombeau.
Oui, tout à fait.
Sa sœur qu'il épousera, donc.
C'est ouais. Ça, donc il s'est marié avec sa sœur. Mmh. Donc il a eu Andrés et Namon, et il a eu deux filles qui sont des momies, des fœtus momifiés qui l'ont accompagné dans la mort. C'est assez touchant. D'ailleurs, on pense que c'est la même mère ou peut-être deux mères différentes.
Oui.
Mais en tout cas, si c'était les enfants du couple, il y avait un effet peut-être de la consanguinité, et puis il y avait beaucoup de mortalité infantile à l'époque.
Oui, bien sûr.
De toute façon.
Bien sûr. En tout cas, ces petits fœtus momifiés étaient avec lui dans ce tombeau pour l'accompagner vers l'au-delà.
Oui.
Pourquoi nous parlions d'assassinat? C'était pas simplement la rumeur. Il y a eu aussi des prélèvements, notamment sur le crâne de Toutankhamon.
Oui, mais vous savez, souvent on trouve ce qu'on a envie de trouver.
C'est sûr. Ouais.
Donc on a tout de suite cette petite esquille. Ça y est, c'était la preuve que. Puis on
dans le crâne, il y avait une petite trace.
Voilà, cette esquille dans le crâne, elle était là au cours de. Elle est arrivée au cours de la momification et rien d'autre.
Oui.
Maintenant, on sait que il a eu une jambe cassée. Il a des problèmes
mais
de
comment
santé.
On sait ça par exemple ça, c'est
quand même vous avez des scanners maintenant vous vous rendez compte
donc on arrive à scanner une momie et à voir que son fémur était brisé
c'est d'ailleurs très vite très clair sur les scanners.
Oui.
Et donc il est probablement mort de ça. Alors tout de suite on a dit il était en char, il est tombé de char. Enfin vous voyez, ça c'est du roman, c'est plus de l'archéologie.
Oui, mais par exemple on trouve sur une fresque, on trouve Toutankhamon assis, il veut décocher une flèche que lui tend son épouse, et on s'interroge justement pourquoi est-il assis, pourquoi
le roi est toujours représenté en train de chasser sur son trône avec les régalia. Vous voyez la reine d'Angleterre,
c'est pas parce qu'il avait la jambe cassée.
Avec 50 kilos de régalia en train de chasser assis sur son trône.
Oui.
Ça existe déjà sous Saouré à la 5e dynastie.
Oui.
Il est en train de tirer 10 filets de chasse à lui tout seul avec une seule corde. Vous voyez le truc, c'est...
Herculéen, mais oui, les pharaons.
L'art égyptien, ce ne sont pas des photos, ce n'est pas du journalisme. Ce sont des hiéroglyphes assemblés pour donner un message qui exprime la nature surnaturelle supérieure du roi, etc. Oui. Si vous ne lisez pas les hiéroglyphes, vous ne comprenez pas ce qui est représenté.
Le pharaon, c'est
lui aussi...
Florence Quentin.
Pour rebondir sur ce que vous dites, Dominique, il y a aussi... On veut toujours surinterpréter les corps. un corps de cette époque-là, de plus de 3000 ans, c'est très difficile à s'y interpréter. Ouais. Donc il y a eu effectivement des vagues d'interprétation sur cette momie. Alors au début, on n'avait que la radiographie, après le scanner, etc. Mais effectivement, on est sûr, parce que cette fracture au fémur, il y a des onguents qui ont coulé dedans. Enfin, on pense que donc il est mort, certainement est mort peut-être d'une septicémie, ouais, d'une infection qui était liée à cette fracture ouverte. Mais après, il y a toutes les reconstitutions, voilà, des documentaires, etc. de la BBC. Ils ont fait des crash tests, il est sur son char, il tombe, etc. Bon, ben là, on est dans le roman.
Oui, mais ça prouve que ça passionne, que ça fascine et que ces mystères participent aussi de la légende Toutankhamon.
Voilà, je pense qu'il y a vraiment, comme souvent en Égypte, on en parlait avec Dominique, moi j'ai dirigé un livre dans la collection bouquins sur les savoirs et les imaginaires. Il y a les savoirs, il y a l'histoire égyptienne, ce qu'on sait, et puis tous les imaginaires. Et plus on sait de choses du point de vue scientifique avéré, et plus les imaginaires continuent, les aliens, la malédiction de Toutankhamon. Ça a aussi autant de force que les savoirs, vous voyez. Donc, même si on sait vraiment qui étaient ses parents, comment il est mort, etc., il y aura toujours le fantasme d'une malédiction, d'une aura de mystère, etc. Ouais. Et ça, c'est lié à l'Égypte, depuis les origines.
C'est ça qui crée aussi cet engouement pour... notamment ce personnage de Toutankhamon, Dominique.
Bon, ça tue personne en même temps, vous voyez, parce que quand on a la même chose en médecine, ça tue des gens.
Oui.
Et là, alors souvent ça m'énerve, parce que je me dis, mais si jamais on raconte ça sur notre science, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes vraiment des scientifiques, mais ça veut dire qu'on doit entendre la même chose en médecine, et que donc là, il y a des gens qui doivent mourir à cause de ça. C'est surtout ça. Bon, nous, ça nous fait rire, surtout, ce genre de fantasme.
De fantasme ou de légende, notamment la malédiction du pharaon, la malédiction de Toutankhamon, on va en revenir, parce qu'elle a alimenté beaucoup de récits depuis 1922, justement, et la découverte de ce tombeau. On est dans le cadre de ce centenaire, avec cette exposition itinérante qui va traverser le monde. Arrêtez-vous si vous le pouvez à Paris, à la Villette. Elle se tient avec ses 150 objets inédits dont on va parler. On en parle jusqu'à 11h sur Europe 1. Et Marie de Tonnerre au 39-21 voudra réagir.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Les mystères de l'Égypte ancienne. On s'intéresse au trésor de Toutankhamon jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard et ses invités.
Avec 150 objets inédits, si vous ne les voyez pas en France, vous les verrez un petit peu partout dans le monde avant de les découvrir dans ce nouveau musée en construction au Caire en 2022. Florence Quentin est avec nous. Elle a publié il y a quelques semaines Dans l'intimité de Toutankhamon, et Dominique Farroux, égyptologue et conseiller scientifique de cette exposition à la Villette, nous entraîne dans cet univers aussi. Je cite l'archéologue Howard Carter, à qui notamment l'on doit cette découverte du tombeau en 1922. « Au début, je ne vis rien. La flamme de ma bougie vacillait sous l'effet d'un souffle d'air chaud venant de la chambre. Mais peu après, tandis que ma vue s'habituait à la lumière, des détails se détachèrent lentement du brouillard. D'étranges animaux, des statues et l'or. Partout, le lustre de l'or. » C'est vrai que quand on pense au pharaon, on pense à l'or. Hein,
mais d'où il vient cet or? Où est-ce qu'ils ont trouvé tout cet or?
Alors, en fait, l'Égypte est le premier producteur d'or du monde à l'époque.
Ah,
il y avait de l'or dans les montagnes du désert oriental. Il y avait de l'or qui venait de Nubie. Dans la région du Wadi Hammamat, par exemple, on a toutes ces mines d'or. L'Égypte produisait quand même, je pense, quelques centaines de kilos d'or par an.
Oui, mais c'est une matière importante aussi qui permet d'accompagner d'une certaine manière.
Oui, parce qu'elle est considérée comme la chair des dieux, c'est le métal imputrescible.
D'accord.
Donc le pharaon, il y a beaucoup d'or dans cette tombe. Sur les statues, évidemment, il y a les sarcophages, etc. Et le masque en or, parce que le dieu est identifié, le pharaon, est identifié à un dieu solaire. Donc il devient à la fois un Osiris et il devient le soleil Ré. Donc sa chair devient de l'or.
Et le bleu, c'est du lapis lazuli sur le masque.
Lapis lazuli et vert coloré.
Lui, il vient d'Afghanistan.
Bah, vous connaissez tous ce masque funéraire magnifique avec ces deux serpents sur le front, cette coiffe bleue et or, justement cette barbe tressée qu'on a retrouvée dans ces tombeaux, dans trois cercueils, dont l'un en or massif et dans ces chambres funéraire avec tant d'objets précieux, avec des rituels, des objets, des images. Tout cela, vous connaissez par cœur, Florence Quentin, qui ont permis d'accompagner le pharaon dans l'au-delà et qui surtout ont raconté aussi son règne.
Oui, alors à la fois, il y a les pièces rituelles hein, qui parlent effectivement de l'époque, de la religion, de la pratique, parce qu'il était essentiellement, sa fonction était essentiellement rituelle.
Oui.
Et puis ces objets aussi que j'ai étudiés, mais pas seulement, mais pour dire, est-ce que ces traces, c'est vrai qu'on en sait beaucoup plus sur sa personnalité, si je puis dire, enfin, que la plupart des autres pharaons. Et ces objets du quotidien, on va dire intime, nous le rendent un peu plus humain, voilà, l'incarne.
Qu'est-ce qu'on sait de lui, pardon ? On sait qu'il chassait.
Oui,
on pense
qu'il chassait. Oui. Il y avait des chars aussi d'apparat hein, pour passer devant son peuple. Et puis également, il y a ces choses que je trouve intéressantes et qui ont servi. Par exemple, vous voyez la palette de scribe, il a sans doute appris à écrire. On a les godets d'encre qui sont usés. Donc il a sans doute appris, il avait une éducation des princes qui était assez poussée, hein, parce qu'il fallait aussi être un peu érudit. Mmh. Et donc il a appris à écrire avec ses palettes. Il y a les jeux qu'il pratiquait, les jeux de société. Il y a un ensemble de tables de jeux que Carter a retrouvées. Et puis effectivement, des choses aussi qui sont assez touchantes, comme ses vêtements, ses sous-vêtements.
Il y a une paire de gants brodés magnifiques.
Voilà, que l'on verra à la Villette, un gant brodé en lin.
Avec telle dextérité.
Ouais. C'est ça, et puis ses sandales, ils devaient être assez dandy, si je puis dire. Enfin, il était très bien habillé, des sandales luxueuses, des sandales soit rituelles ou des sandales du quotidien.
C'était il y a 3500 ans. Comment on sait que ce roi a commencé son règne autour de l'âge de 9 ans ?
Oui, entre 7 et
9
ans.
Comment on sait ça ?
Bien, d'après...
On a la momie déjà.
La momie, on peut...
Puis on a quand même pas mal d'informations.
Comment la momie peut vous dire qu'il a commencé à régner à 9 ans ?
Puisqu'on a les années de règne.
Oui.
Donc il règne plus de 9 ans.
Oui, 9 ans.
Et donc, puisqu'il a moins de 20 ans voilà. À sa mort, mmh. Et donc il a 10 ans maximum au moment où il monte sur le trône. Mmh. Donc ça se voit. Puis on a quand même le trône, qu'on a à l'exposition,
voilà.
Le petit trône d'enfant. Si vous avez des enfants, vous allez pleurer.
Ouais. Ouais.
Il est évidemment, la différence avec le siège qu'auraient vos enfants, c'est que c'est en ivoire, en ébène, plaqué d'or.
Alors justement, il y a cet artisanat incroyable dont il a pu bénéficier lorsqu'il régnait, et il y a aussi tout cet apparat, tous ces objets de rituel qui accompagnent dans cette transition de la vie à la mort, et là qui sont l'œuvre d'artisans qui se trouvaient dans un petit village. L'âge dévolu justement à ce travail pour orner les tombeaux,
oui.
Dominique Farou.
Alors ces artisans, attention, hein, parce que souvent on dit les ouvriers de Deir-el-Médineh, ce sont des gens qui sont à la fois docteurs en théologie.
Hein. Oui.
Ah oui, alors là, ceux-là, ils ne sont pas dans ce village-là.
Mais bon,
tous ces gens qui font ces œuvres font partie d'une forme d'élite. Et d'ailleurs, quand on parlait du matériel à écrire de Toutankhamon, ça c'est la différence avec nos princes et nos rois. Chez nous, ils dansent, ils jouent de la musique, ils écrivent des pièces de musique,
oui.
Le régent, etc. Louis XIV, vous voyez. Dans l'Égypte ancienne, l'élite de l'élite, hein, je parle de ces gens-là, l'élite royale, eh bien, apprend à écrire et apprend à peindre, à dessiner.
Ah oui.
Donc, et on le sait, parce qu'ils se font représenter en train de peindre.
Absolument.
Donc on chasse, on fait la guerre, et on écrit et on peint. C'est un art de lettré. Ça, c'est vraiment un truc qui est un élément comme ça... comment dire, personnel
qu'on peut mettre à jour.
Qu'on peut mettre à jour et qui nous différencie d'eux.
Marie est avec nous, passionnée, j'imagine, par les propos que vous entendez. Vous nous appelez de Lyon à Tonnerre au 39-21. Bonjour Marie.
Oui, bonjour toute l'équipe. Oui, écoutez, je fais un grand retour en arrière d'à peu près 72 ans, puisque j'en ai 83 maintenant.
Oui.
Mais écoutez, vous remuez beaucoup de souvenirs magnifiques, quoi.
Parce que
vous avez
vécu là-bas.
J'ai eu la chance de visiter le musée du Caire, plein d'or, comme vous le relatiez là. Oh, c'était de l'or, de l'or, de l'or, des sandales en or, des pagnes en or. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que on était vraiment éblouis.
Le musée du Caire, j'espère que vous verrez la prochaine version lors d'un voyage 2022, Florence Quentin. Là, on va avoir le summum de l'Égypte ancienne représentée. Hein.
On parlait de Toutankhamon comme l'icône absolue de l'Égypte ancienne.
Oui.
Et il se trouve que le musée, le futur grand musée d'Égypte sur le plateau de Gizeh, va ouvrir sur cette collection. Ils vont présenter quasiment l'intégralité de ces objets pour la première fois.
Mmh.
Alors il faudra attendre peut-être 2020, 2021, 2022, on ne sait pas.
Oui.
2022.
Dominique Varro, vous disiez, on a retrouvé 5000 objets à peu près dans le tombeau de Toutankhamon.
Oui.
Seront-ils tous exposés au musée du Caire ?
Alors, je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais en tout cas, ils ont annoncé qu'il y en aurait 3000 et quelques.
Voilà, c'est ça,
qui,
voyez,
c'est énorme déjà. Ouais.
Bon, en attendant, chère Marie, si vous pouvez vous rendre à Paris dans cette exposition à la Halle de la Villette, cela vous rappellera de beaux souvenirs.
Oh là là. Ouais. Bah oui, mais là, je crois que là, je serai au bout du bout, bon, pour moi.
Bon. Vous savez, on va vous envoyer le Beaux-Arts Magazine, si vous voulez. Comme ça,
oh,
vous
c'est
plongez.
Gentil. Oh là là, vous faites un grand plaisir.
On va prendre vos coordonnées, on va vous envoyer ça. Beaux-Arts Magazine, hors série sur Toutankhamon, justement, et ses mystères. Merci. Pierre va réagir, amoureux d'Égypte aussi. Il nous écrit et nous appelle d'Isère au 3921. Dominique Farou, Florence Quentin nous guide dans cette intimité pharaonique. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Jusqu'en septembre, vous pouvez découvrir à la Grande Halle de la Villette à Paris les trésors exceptionnels de Toutankhamon. Des objets qui racontent ce jeune pharaon qui fut souverain d'Égypte il y a 3500 ans. Wendy Bouchard.
Notamment le Ka du roi, Ka du roi, statue gardienne de la chambre funéraire qui associe l'or solaire à la couleur noire, symbole de la résurrection et que vous décrivez si bien dans votre ouvrage dans l'intimité de Toutankhamon. Florence Quentin, comment ces objets inédits que vous découvrez à la Villette racontent aussi le parcours, la personnalité de ce jeune roi mort autour de l'âge de 17 ans. Un pharaon, pour bien qu'on comprenne, c'est un roi, donc c'est un souverain. Dominique Farou, vous qui êtes égyptologue et conseiller scientifique de l'exposition, c'est-à-dire que c'est un roi qui régnait sur combien d'individus à l'époque, il y a 3500 ans, vous savez à peu près ?
Oui, alors on ne sait pas très bien, mais on va dire entre 1 et 5 millions, grosso modo.
C'est énorme.
Ce qui, pour l'époque, était énorme.
Et qu'est-ce qu'il prêchait ? Il était quoi, comme le gardien du temple,
alors,
de
lui,
la philosophie ?
D'abord, c'est un dieu. Oui. C'est le seul roi du Proche-Orient qui est un dieu. C'est pour ça d'ailleurs que pour décrire Moïse dans la Bible, on s'inspire de l'image de Pharaon. C'est ce qui a fait croire à certains qu'il devait être Pharaon. Vous savez. Ce qui n'est pas du tout le cas.
Oui.
Mais bien entendu, si on veut décrire un être humain qui a des capacités divines, à cette époque et dans cette région, on décrit quelqu'un qui ressemble à un pharaon.
Donc c'est un guide aussi.
Alors c'est un protecteur en fait de leur monde, et qui pour eux, je dirais, il n'y a pas de différence entre les ennemis à l'époque de Toutankhamon, donc les Hittites, et des ennemis venus de l'autre monde, des divinités mauvaises, etc. Donc il doit protéger sa société contre tout ça, et il est en même temps le propriétaire de cette société.
D'accord. Et pourquoi on dit pharaonique, Florence Quentin? C'est passé dans l'imaginaire aujourd'hui.
Oui, ça veut dire
dans l'ampleur justement de la
quelque chose de grandiose, et puis parfois aussi d'un peu mégalomane. Hein. Ça peut avoir un aspect aussi un peu péjoratif, ce terme.
Oui.
Et pour ajouter quelque chose à ce que dit Dominique, il y a aussi il est le garant de ce qu'on appelle la Maat. Maat, c'est une déesse qui a une plume sur la tête, qui représente, on va dire, l'équilibre du monde, l'ordre social, l'ordre cosmique, et il doit maintenir la Maat. D'ailleurs, en général, il fait offrande à la Maat quotidiennement, ou dans les temples, on fait offrande en son nom à cette Maat. Et si vous voulez, c'est l'éthique de l'Égypte ancienne, c'est tout ce qui n'est pas le manquement à l'éthique universelle.
Oui.
Et il est là pour maintenir la Maat, c'est-à-dire l'équilibre et l'harmonie dans le monde, pour éviter que le monde retourne dans le chaos des origines.
Mais théoriquement,
c'est très important. Hein.
Il s'inscrit dans une lignée, la fille a priori d'Akhenaton et de Néfertiti, mais pas de descendant pour Toutankhamon. Alors qui a pris le relais ensuite? Qui est devenu le successeur, le pharaon?
Son précepteur qui devait être son grand-oncle ou son grand-cousin.
Qui a été nommé,
c'est
encore
le régent
de famille.
On parlait de Louis XIV tout à l'heure.
Oui. Et qui
s'appelait
comment?
C'est comme si Louis XV était mort, et donc le régent devenait le roi. C'est à peu près ce qui s'est passé.
Bon, elle a oublié son successeur.
Ah non, mais il a régné 4 ans, 3-4 ans.
Il était déjà âgé quand il est monté sur le trône.
Enfin bon, ce qu'il y a, c'est qu'il était probablement plus jeune que je le suis aujourd'hui, mais c'était un vieillard pour l'époque.
Nous avons Pierre avec nous au 39-21 qui veut témoigner de son attachement aussi à cette fascination à l'Égypte. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Wendy.
Merci de nous appeler. J'espère que vous vous régalez comme on se régale avec cette émission.
Bien sûr, j'ai d'ailleurs écrit un article que je vous ai envoyé par mail il y a quelques minutes pour votre information.
Oui.
Alors, j'aime beaucoup l'Égypte parce que en fait, Toutankhamon a rétabli en fait le culte d'Amon. C'est pour ça que ça s'appelle Toutankhamon.
Oui.
Alors qu'il s'appelait en fait Toutankhaton au début, c'est-à-dire qu'il était le fils d'Akhenaton.
Oui.
Mais il a rebouleversé ce que son père avait dévié, c'est-à-dire un culte voué au disque solaire qui était unique. Toutankhamon, bien sûr, certainement des prêtres, ont rétabli le culte des deux dieux primordiaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la religion égyptienne n'est pas forcément que polythéiste. Elle est à la fois polythéiste et monothéiste, puisqu'elle a un dieu qui est Ra, qui est primordial, et un ensemble de dieux d'hypostases divines qui représentent finalement une pyramide. D'ailleurs, le symbole de l'Égypte, c'est la pyramide, c'est-à-dire une émanation du plus pur jusqu'à la base, qui est l'humain,
oui.
et qui, où il n'y a finalement pas de division,
oui.
il n'y a pas de séparation entre le divin et l'humain.
Alors Pierre, ça c'est, une théorie d'un amateur ou vous vous retrouvez dans ce que dit notre auditeur à l'instant, Florence Quentin?
Oui, enfin on peut...
Sur le rétablissement du culte d'Amon,
oui,
ce que ça veut dire.
Oui, sur le rétablissement du culte d'Amon, c'est évident que là, il y a eu cette rupture à l'époque amarnienne, mm-hmm. où on va dire qu'il y a eu une... Akhenaton a imposé de manière parfois un peu brutale, d'ailleurs ce culte du dieu exclusif Aton, le
oui.
disque solaire,
mmh.
c'est une phénoménologie, c'est-à-dire c'est le disque solaire que l'on voit, hein,
oui.
que l'on sent. Donc je pense que ça a dû être un traumatisme mmh. pour les Égyptiens. Et donc Toutankhamon a eu effectivement la lourde tâche quand même de rétablir ce culte d'Amon avec restaurer les temples, etc.
Mmh.
Alors après, il y a plusieurs cosmogonies, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs récits des origines. Il y a, le monde a été créé par plusieurs démiurges. Alors on peut dire, est-ce qu'il y a Re Atum qui est le premier qui préside sur les autres,
oui.
c'est un peu difficile. Il y a plusieurs récits d'un dieu primordial.
C'est ça, puisque Pierre évoquait oui. les pyramides, on en parlera
comme
ça évolue
dans le temps
Dominique
énormément.
Farou. Oui.
D'une région à l'autre, d'une époque à l'autre. Et alors en plus, justement, la grande différence avec Akhenaton, c'est qu'il a un dieu jaloux, comme Yahvé. Et c'est pas tellement du monothéisme d'ailleurs, mais c'est et comment dire, qu'on élimine en particulier Amon-Ré. Et c'était la première fois qu'on faisait un truc pareil, quoi. C'est ça qui a été vraiment insupportable pour les Égyptiens.
Merci de votre appel, Pierre. Un petit mot personnel avant de vous quitter, de Philippe Chartier qui nous écrit de Cachan, qui était au lycée avec vous, Dominique Farou. C'est un avis de recherche au lycée Gabriel Fauré, Paris 13, à la fin des années 70. Je vous donne son numéro. Vous pourrez l'appeler. Voilà, c'est la magie de la radio aussi. Merci beaucoup, Dominique Farou, vous qui êtes par ailleurs conseiller scientifique de l'exposition Le Trésor du Pharaon, qu'on découvre donc sous la halle de la Villette. On reste avec Florence Quentin qui va nous en dire davantage sur cette fascination égyptienne et ce culte de Toutankhamon. Pourquoi aujourd'hui intrigue-t-il toujours autant? À tout de suite sur Europe 1.
Et retour en Égypte avec Toutankhamon, dans l'intimité de Toutankhamon. C'est le titre de votre livre. Nous sommes avec Florence Quentin.
Absolument, qui nous guide pour cette exposition à la Villette avec ses 150 objets inédits qui racontent tant aussi de l'Égypte ancienne et de ce jeune souverain qui continue de fasciner depuis 200 ans maintenant pour l'époque très contemporaine qui nous réunit. Notamment dans les livres d'histoire, évidemment, nous avons tous étudié ce masque funéraire qui recouvrait la tête de la momie, qui a été redorée, évidemment, au fil du temps, Florence Quentin, mais qui dit beaucoup parce que ce visage nous marque, évidemment.
Oui, parce que c'est devenu
l'icône
absolue de l'Égypte ancienne. Quand
oui.
on dit Égypte, on pense pyramide et on pense masque de Toutankhamon. D'ailleurs,
oui.
on l'a retrouvé dans la pub, il a inspiré la BD, le cinéma, etc. Donc, il est devenu iconique.
Y compris pour les Égyptiens aujourd'hui.
Hein. Y compris pour les Égyptiens aujourd'hui, on le trouve partout, peint sur les boutiques, etc. Et pour eux, c'est un emblème de fierté.
Mmh.
Hein, c'est leur grand ancêtre, on va dire.
Mmh.
Et ce masque aussi, donc c'est 10 kilos d'or, avec des martelés et avec des incrustations de lapis lazuli, de cornaline, de verre coloré. Et surtout, il fige les traits d'un roi qui meurt à 17 ans.
Oui.
Donc vous voyez, c'est un visage d'éternité.
Absolument.
On voit ce jeune homme qui est devenu solaire, qui est divinisé, bien sûr. Il est idéalisé sur ce masque parce qu'on pense qu'il n'était peut-être pas aussi beau que ça. Il est passé donc de l'homme semi-divin au dieu incarné. Et c'est un visage d'éternité qui nous fascine. En plus, les yeux sont extrêmement présents. Il y a une incrustation...
Avec le kaul, hein, magnifique.
Voilà,
ouais.
avec le kaul, en lapis lazuli. Et puis, c'est calcite, obsidienne. Et on a voulu rendre l'effet de la vie en mettant des petites traces rouges au coin des yeux. Vous savez, des petits vaisseaux. Donc, quand vous êtes en face de
quel
lui,
travail.
On a l'impression qu'il vous transperce. Quoi.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la restauration qui en a été faite il y a quelques années, on s'est rendu compte, tout de même, ça c'était une sorte de scoop, qu'il y avait à l'arrière du masque un cartouche, son cartouche, c'est-à-dire son nom dynastique, qui recouvrait un cartouche antérieur. Et on se demande si ce masque n'a pas été réadapté au visage du roi et qu'il n'aurait pas été créé à la base pour la reine pharaon qui a régné juste avant lui pendant 2 ans et demi, 3 ans, et qu'on appelle Anhreperouré, qui pourrait être sa sœur aînée.
Voilà, mais c'est incroyable comme vous arrivez à justement remonter le fil de l'histoire, Toutankhamon et ce visage très fort que le monde entier connaît. Contrairement à Ramsès II, par exemple, Ramsès II, sa momie est au Caire, on a réussi à essayer de redessiner son visage.
Il est extrêmement bien conservé,
oui.
Et je trouve que par rapport à certaines statues, où il est aussi idéalisé, hein, parce que Pharaon, c'est un dieu sur terre, c'est assez proche, on retrouve les traits de Ramsès, elle est très bien conservée cette momie. On a d'ailleurs ce qui montre aussi le lien très proche que nous avons, les Français, avec l'Égypte, c'est qu'on a envoyé dans les années 70, je crois, la momie pour se faire irradier à Saclay, là, donc au CEA, vous savez, parce qu'elle était attaquée par les champignons.
Donc pour la conserver.
On l'a conservée, elle est venue, elle a été attendue au Bourget avec la garde républicaine. C'est extraordinaire quand même, c'est un pharaon. On l'a traité comme une visite royale.
Bien sûr, incroyable. C'est une exposition aussi à la Villette dont vous avez vu les principaux objets, qui permet de mettre aussi le travail des archéologues. Florence Quentin, on parlait de cette découverte de Howard Carter, mais c'est vrai qu'il y a tout depuis 200 ans en France, même depuis l'expédition en Égypte de Bonaparte, cette fascination et ce fil tendu. On respecte ces œuvres-là et on a envie d'en connaître davantage sur les mystères de l'Égypte ancienne.
Oui,
les archéologues sont les
archéologues sont là pour ça. Et puis aujourd'hui, on a des moyens scientifiques. On est beaucoup plus respectueux, effectivement. À une époque, il faut dire que c'était la course aux objets, aux collections. Hein. Donc on exhumait des objets pour les vendre aux musées, à des collectionneurs. Donc on ne faisait pas beaucoup cas, si vous voulez, des indices minuscules. Aujourd'hui, eh bien, on fouille par strates, on fait très attention à ce qu'on découvre. Et si vous voulez, il y a encore beaucoup de choses à découvrir en Égypte. Parce que dès qu'on creuse, on trouve. Récemment, on a trouvé encore des tombes dans la vallée des Rois, à Saqqara. Voilà, il y a des pépites, il y en a partout dans le sol égyptien. Donc, on n'est pas au bout de nos surprises.
Ouais. Et est-ce qu'on cherche encore des mystères à percer sur l'Égypte ancienne? Bon, on pourra faire une autre émission sur les pyramides, mais est-ce qu'il y a encore des objets qui posent question?
Oui, parce que c'est une science qui est toujours en évolution. On avance, on parlait des hiéroglyphes. Si on découvre des inscriptions, ça nous permet de comprendre et de ne pas tergiverser ou inventer. C'est important qu'on ait ces textes, parce que les Égyptiens écrivaient tout. Ils étaient des graphomanes, ils écrivaient sans cesse, ils consignaient beaucoup. Donc dès qu'on trouve un texte, ça nous renseigne et peut-être qu'un jour on trouvera une stèle qui nous dira qui était vraiment Toutankhamon, qui étaient ses parents. Vous voyez, donc la connaissance progresse aussi à travers l'épigraphie, à travers les textes.
Et quand on se retrouve place de la Concorde et qu'on regarde l'obélisque, à quoi il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut lire?
Jumeau qui est resté là-bas.
Voilà, on peut se dire qu'il est un peu, il est très beau, il est un peu isolé au milieu de la place de la Concorde, alors que son jumeau, comme vous le disiez, Julie, est tout seul, pauvre, devant le temple de Louxor.
Oui.
Et encore, on devait avoir les deux. Hein. Finalement, on a abandonné. Je crois que c'est François Mitterrand qui a renoncé à son droit sur le deuxième obélisque.
Et c'était quoi le symbole?
Alors, le symbole, c'est un rayon pétrifié du soleil. Et quand vous voyez le pyramidion, c'est-à-dire ce qui est au sommet, il est doré ils étaient tous recouverts d'électrum, un mélange donc d'or et de cuivre, et il captait la lumière. Et de loin, on devait voir toutes ces pointes dorées qui brillaient. Et pour le peuple qui n'avait pas accès, il faut bien dire, au temple, le peuple restait sur les parvis, seuls les pharaons et les prêtres pouvaient rentrer à Louxor, à Karnak, et bien de loin, on voyait ces rayons pétrifiés qui brillaient. Ça devait être un spectacle extraordinaire.
C'était un rapport aussi à la lumière et à l'au-delà. Déjà.
À la lumière, à ce soleil là, qui a créé le monde, dans un des récits. Et également, tout est solaire en Égypte. On voit que quand même, il y a l'omniprésence de ce soleil donc qui donne la vie à l'Égypte aussi. Hein.
D'où la présence de l'or dans tout le rituel aussi égyptien. Merci beaucoup Florence Quentin. Dans l'intimité de Toutankhamon, c'est un livre qu'on vous recommande et illustré aussi avec les objets du trésor qui révèle la personnalité de ce jeune souverain chez First Edition. Et on vous encourage évidemment à aller découvrir comme tant d'autres 1 200 000 visiteurs en 1967 au Petit Palais. Donc gageons que ça soit à peu près le même succès. Et puis si vous ne pouvez pas vous déplacer, ce hors-série de Beaux-Arts Magazine pour vous plonger aussi dans ce mystère. Ma chère Julie, c'est un plaisir. Je vous dis à demain.
À demain.
9h-11h sur Europe 1. Merci de votre fidélité les amis. À demain.
C'était Wendy Bouchard. Dans un instant, Anne Roumanoff. C'était le tour de la question avec la poste.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.